Donc j'ai commencé. Donc la première tactique, celle par laquelle j'ai commencé, j'ai créé mon blog en parlant de cette tactique-là, donc c'est les parkings. J'ai acheté mon premier parking en 2008. Et voilà, il y a plein d'avantages à avoir un parking. Le premier, c'est que bien sûr, il n'y a pas d'entretien. C'est qu'un morceau de bitume, un bout de bitume. Il n'y a pas de plomberie, il n'y a pas d'électricité. Enfin, il y en a, mais c'est pour le parking en entier. C'est la copro qui gère ça. Il n'y a pas de risque d'impayé, puisque si le locataire ne paye pas, on le fait sortir tout de suite. On change le bip à la limite. Il n'y a pas de risque de dégâts des eaux, encore une fois. Il n'y a pas de toilette, il n'y a rien de tout ça. Et voilà, il y a plein d'avantages comme ça. Le principal, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de rénovation. À part si ce n'est que voilà, vous voulez boxer une place de parking, vous mettez des parpaings sur le côté et une porte devant. Donc ça va vous coûter peut-être 1000 euros, un peu plus. Mais au moins, là, vous aurez mis de la valeur dans le parking parce que vous avez transformé ça en parking, d'un parking à un box. Donc vous aurez gagné beaucoup plus d'argent que ce que l'opération de transformation vous aura coûté. Donc il n'y a pas de risque d'impayé, comme je disais, parce que le gars, on peut le virer s'il ne paye pas tout de suite. Il faut savoir que le parking, ce n'est pas considéré comme de l'immobilier d'habitation, mais plus comme du commercial. Et le commercial est beaucoup plus, on va dire, light en termes de réglementation. Et on va dire que c'est avantageux pour le bailleur et non pas pour le locataire. Il faut faire attention aux frais de notaire quand on achète un parking. Moi, je sais que je me suis fait avoir au début. Donc, bien souvent, les montants sont faibles par rapport à un appartement. On peut acheter un parking, par exemple, à 10 000 euros. Et donc, les frais de notaire, ça serait 7% dans ce cas-là. Donc, ça serait 700 euros. Sachant que le notaire, lui, il récupère que 1/7 des frais de notaire. Le reste, ça va à l'État. Donc, 1/7 sur 700 euros, ça va pas chercher loin, ça fait 100 euros. Donc, le notaire ne voudrait pas travailler pour 100 euros seulement, parce qu'il fait beaucoup de travail, que ce soit un parking ou un château, c'est le même travail qu'il doit faire. Et donc, autant de travail pour 100 euros, il n'est pas vraiment intéressé. Donc, c'est pour ça que bien souvent, ils vont non pas prendre 7%, ils vont prendre un forfait. Un forfait qui est bien sûr plus que 7%, bien souvent, ça va être autour de 20-25%. Et ça, chaque forfait dépend du notaire que vous allez aller voir. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un notaire de famille. Parce qu'il pourra vous faire un cadeau sur ce forfait-là. Voilà. Faites gaffe aux frais de notaire, allez voir plusieurs notaires, demandez-leur combien ça va coûter en termes de frais de notaire pour faire l'achat de votre parking. Moi, j'avais payé 20% pour la place que j'avais achetée 5 et quelques mille euros, un peu moins. En tout, j'en avais pour 5 700 euros, ce qui reste une excellente affaire à l'époque. Mais voilà, faites bien attention aux frais de notaire, c'est un forfait et ça dépend de chaque notaire et bien sûr de la tête du client. Il faut faire attention aux charges parce qu'un parking, bien souvent le loyer n'est pas vraiment élevé, ça va être autour de entre 50, 40 et 150 euros, voire 200 pour un box à Paris par exemple, bien placé. Donc voilà, c'est pas des gros loyers, mais par contre les charges peuvent être élevées. Et si on a des charges de 20 ou 30 euros par mois, c'est beaucoup pour un parking que vous allez louer 30 euros ou 100 euros. Ça peut faire vite fait 30%. Du loyer perçu, donc c'est énorme. Donc attention aux charges. Pour ça, il faut vraiment regarder ce qui se passe dans la copropriété. Et dans la mesure du possible, ce qu'on veut, c'est vraiment trouver un parking où il y a vraiment une différence entre les lots de parking et le reste de la copropriété. Dans le sens où, effectivement, si vous avez un problème de toiture, alors vous, en tant que propriétaire de parking, vous n'aurez pas à payer les problèmes de toiture parce que vous avez le sous-sol, le parking. Donc ça existe, c'est pas super fréquent, mais quand vous trouvez ça, il faut gratter parce que c'est intéressant. Et je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai failli acheter où justement il y avait marqué noir sur blanc sur l'agrément de copro que en tant que propriétaire de parking, et ben moi je n'avais aucune charge qui incombait par rapport au hall d'accueil, par rapport au ravalement de façade par exemple. Ça, c'est obligatoire tous les 15 ans ou 20 ans, ça dépend des communes. Et voilà, donc bien souvent, vous allez avoir un parking au sous-sol et on va vous demander de payer un pourcentage pour le ravalement de façade. Alors que voilà, vous vous en foutez parce que vous avez juste une place de parking. Même si après, un trincinquement, c'est bien pour votre parking aussi parce que si l'immeuble est beau, ça ajoute de la valeur, on va dire, à l'immeuble et donc également à votre parking. Mais bon, si on vous propose de payer uniquement pour les frais qui incombent au parking, c'est tant mieux. Ça veut dire que ça va être les autres copropriétaires qui vont payer pour la façade de l'immeuble et ça va aussi mettre de la valeur à votre parking. Mais vous n'aurez pas à le payer. Donc ça existe. Voici ce que j'ai failli acheter. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté à cause de la banque qui ne m'a pas financé. Et elle a refusé. Ça arrive et pourtant j'avais un apport conséquent. J'étais prêt à mettre 30% d'apport. mais la banque, voilà, elle a refusé. Encore une fois, à tous les niveaux, voilà, que vous soyez débutant ou soyez avancé ou autre, vous aurez parfois des problèmes pour financer. Donc, ce n'est pas vous, c'est pas vous qui êtes moche ou mauvais ou autre. Non, ça arrive à tout le monde. Il faut juste faire avec, continuer à chercher d'autres choses, à continuer à investir, continuer à essayer d'investir. Voilà, c'est normal. Moi, la banque me considère comme un professionnel. Elle comprend pas pourquoi je continue à investir, pourquoi je continue à acheter. Et donc voilà, je suis un petit peu à risque pour eux. Et donc voilà, je suis un peu dans une phase où je vais devoir changer d'organisme bancaire. Ne plus prendre des banques de détail classiques, mais aller prendre des banques un peu plus, on va dire, qui passent sous les radars, qui font que de l'investissement immobilier et qui comprennent mieux un petit peu le business de la foncière. Donc voilà, si on vous dit non, une banque, c'est pas que vous, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, il faut rester persévérant. Encore une fois, on a un module complet uniquement sur comment trouver le financement. Donc voici le plan de ce que j'ai failli acheter. Donc les places en rouge là, c'est ce qui était déjà loué et c'est ce qui est parti en premier. En rouge, c'est ce qui a déjà été vendu. Et comme je vous disais, la location de parking, c'est pas considéré comme de l'habitation, c'est considéré comme du commercial. Et dans le commercial, on en parlera durant ce module. Dans le commercial, quand votre bien, quand le bien en question est déjà loué, alors il prend de la valeur, contrairement à l'habitation. L'habitation, quand on vend un bien qui est déjà occupé, alors on le vend moins cher. Parce qu'on considère qu'on ne peut pas en jouir, il y a un locataire dedans en place, c'est difficile de le faire bouger, donc voilà, ça perd de la valeur. Mais quand c'est des murs de boutique, quand c'est du commercial et que c'est loué, alors ça prend de la valeur. Parce que de toute façon, ce qu'on veut, c'est le louer et on veut avoir un cash flow. Et donc, quand c'est loué, qui plus est, à un bon locataire, ça prend de la valeur. Si vous avez des murs, par exemple, de boutique, un local qui est loué à une banque, Crédit Agricole, BNP, Caisse d'épargne ou autre, et bien ce bien-là vaut très cher parce que dedans, on a un bon locataire qui a pignon sur rue. On sait qu'il a les moyens de payer, c'est une banque. Et donc, la valeur de votre bien explose. Et donc, une bonne chose que vous pouvez faire, c'est acheter un local nu, pas occupé, sans locataire, et louer à une banque ou à la poste. Là, c'est le jackpot. Vous faites au moins x2 sur votre argent. Et donc là, on voit que les places qui sont parties en première, c'est celles qui étaient louées, bien sûr. Parce que de toute façon, si on achète autant de places de parking, c'est pour les louer. Donc, le fait de les acheter et déjà louer, c'est un point positif pour la vente. Ça prend de la valeur. Et là, on voit que les places sont louées par une boîte qui s'appelait Enum Consulting. Je pense qu'ils ont changé de nom depuis peu. Donc, c'est une grosse boîte de conseils. Et voilà, on voit qu'il y a beaucoup de places qui sont… En gros, il y a un acheteur qui a tout acheté. D'ailleurs, c'était deux traders. L'agent m'a dit, deux traders qui ont acheté ça. Ils ont acheté toutes les places louées quasiment par Enum Consulting. Et voilà, donc ils ont fait un bon placement. C'était un bon billet là parce que c'était 35 000 euros la place. Là, on est à Neuilly-sur-Seine, ce parking-là. Donc, c'est très cher. Neuilly-sur-Seine, c'est vraiment… C'est l'ouest parisien, c'est très huppé, très 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 cher. Là, 35 000 euros pour un parking, même pas boxé, hein, une simple place de parking en sous-sol. C'est pour un petit peu vous donner un ordre d'idée de la valeur, enfin du prix très cher de ce coin-là. C'est là où beaucoup de traders habitent, entre la Défense et Paris, vous savez. Donc voilà, moi j'ai failli acheter ces 10 places-là. Donc celle-ci était libre finalement, j'ai failli acheter ces 10 places-là. Et bon, ça ce n'est pas fait par rapport à la banque. Ici, c'était carrément un lot entier. On voit que c'est loué au même gars, Monsieur Leclerc. Et le truc, c'est que voilà, jusqu'ici, en fait, il avait privatisé plus de 10 places. Il avait mis toutes ses voitures de collection, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Mercedes. C'était assez impressionnant. Et c'était en vente. C'était un billet assez élevé, mais c'était un rendement de 7%. C'était intéressant. C'était intéressant parce que vu l'emplacement, voilà, éventuellement, si la mairie de Paris, c'est ce qui menace de faire depuis plusieurs années, empêche ou alors il taxe l'entrée dans Paris des voitures, bah, ces parkings-là auraient pris vraiment beaucoup de valeur parce que c'était vraiment aux portes de Paris, côté Neuilly, et ça aurait été vraiment, on va dire, un bon investissement. Et moi, je voulais faire ça, encore une fois, ça n'aurait pas été mon meilleur investissement, ça aurait été un investissement plus patrimonial, dans le sens où j'aurais eu celui-ci qui serait moins rentable en termes de cash flow, mais j'en ai d'autres à côté qui sont beaucoup plus rentables, qui sont plus exotiques on va dire, et plus rentables, et qui auraient permis de payer un peu celui-ci. Et le jour où les autres exotiques auraient eu des soucis, donc par exemple en Guadeloupe, s'il y a Chikungunya ou je sais pas, un cyclone, et bien celui-ci, ce bien-là aurait pris le relais. Et ça, en fait, dans votre portefeuille, vous allez avoir plusieurs types de biens qui vont travailler ensemble, qui vont se back-upper les uns les autres. Et donc, l'avantage de ce parking-là, c'est pour ça que je voulais vraiment l'acheter et que bon, la banque a dit non, ça arrive. L'avantage, c'est que c'était bien marqué noir sur blanc dans le règlement de copro que tous les frais qui incombaient à la résidence, qui n'étaient pas dans le sous-sol du parking, donc peinture, boîte aux lettres, porte d'entrée, toiture, vraiment ravalement de façade, ça n'incombait pas aux propriétaires des parkings. Et donc les tantièmes sur les places étaient vraiment très faibles, les charges étaient vraiment très faibles, et donc c'était vraiment super d'un point de vue de l'investissement. Maintenant voilà, la banque a dit non, ça arrive encore une fois, mais faites vraiment attention aux charges quand il s'agit vraiment de parking. C'est vraiment ce qui peut grever votre budget. Et encore une fois, voilà, bah, regardez le rendement, ça on l'a vu tout à l'heure dans le module 1. Le rendement, également les autres critères, les trois autres calculs. Mais ça, c'est voilà, c'est comme tout investissement, c'est important, il faut bien regarder ça. Maintenant, gardez en tête que le parking, ce n'est plus comme il y a quelques années au début, on va dire. Quand moi j'ai acheté en 2008, personne ne parlait de parking. Ça ne se faisait pas encore. On n'avait pas idée que ça pouvait se louer en termes d'investissement. On avait simplement, on achetait un parking, c'était pour soi, pour sa résidence principale, et non pas pour investir. Donc en 2008, c'était vraiment très courant de trouver un parking à 10% de rendement. C'était facile. C'était vraiment, il y en avait partout. On allait sur SeLoger, ou boum, on regardait les annonces, et hop, ah bah ça c'est bon, ça c'est bon, ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc soyez bien, voilà, il faut bien prendre les annonces avec des pincettes, aller voir, faire attention. Là, on a investi. Il ne faut pas investir n'importe où sur un parking. Il faut qu'il y ait de la demande. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est trouver un endroit où les gens n'arrivent pas à se garer, où c'est la galère, où les gens klaxonnent. Dans Paris, par exemple, un ordre d'idée, c'est que, on va dire, 10% des voitures qui circulent dans Paris, 10% des voitures que vous voyez rouler comme ça, elle recherche une place de parking. C'est juste énorme. Et c'est pour ça que les parkings dans Paris, ça reste intéressant. Maintenant, si imaginons un jour, ils empêchent l'entrée des voitures dans Paris, ça pourrait peut-être baisser un peu en valeur ou autre. Donc ça, maintenant, on n'est pas devin. On ne peut pas savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs investissements, un peu mutualiser différents types de tactiques. Et c'est comme ça qu'on devient, entre guillemets, chanceux. Et c'est comme ça que les autres vont dire, ah, mais toi, t'es chanceux, t'as des parkings, machin. Non. Vous serez passé à l'action un moment ou un autre. Maintenant voilà, restez bien, gardez bien l'idée que voilà, c'est plus comme avant, c'est plus la fête du slip entre guillemets. Il y a des bons parkings et des moins bons, beaucoup de moins bons maintenant. Donc voilà, soyez très sélectif, attention aux charges, aux frais de notaire et surtout l'emplacement. L'emplacement, l'emplacement, c'est vraiment très important pour le parking. Voilà, je veux dire, c'est un des critères les plus importants. Autant l'immobilier d'habitation, notamment les immeubles de rapport en province. L'emplacement, ce n'est pas forcément le plus important parce qu'on aura toujours des locataires pour trouver. Mais le parking, si on peut prendre notre voiture et se garer n'importe où gratuitement, et bien personne ne paiera pour votre parking. Je veux dire, ouais, c'est facile à comprendre. Alors que, effectivement, pour se loger, on ne va pas dormir dans la rue. Non. Alors que la voiture, une voiture, on peut la mettre dans la rue. Donc, s'il y a trop de places gratuites dans le coin et qu'il n'y a pas de demande, il ne faut pas acheter. Il faut vraiment que ce soit galère. Pour se garer. Et moi, je sais que le premier parking que j'ai acheté à Pontoise en 2008, quand je passe par là pour aller voir mes parents, je regarde tout le temps si c'est toujours occupé comme ça. Et ouais, c'est tout le temps occupé. C'est vraiment chiant pour se garer dans ce coin-là. Bien souvent, il n'y a pas une place de libre. Et moi, mon parking est juste à côté. Il y a une barrière privée. Tac, on rentre. Et là, par contre, là, il y a de la place dans la résidence privée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes pour ce parking-là. Si j'avais pu en acheter plusieurs là-dedans, j'aurais acheté parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est vraiment une vieille ville où il n'y a pas de place pour se garer. Donc attention à ça, l'emplacement pour les parkings, c'est vraiment très important. Une autre tactique en parking, ça va être les parkings à bateau et à caravane par exemple. Et là, c'est vraiment comme les parkings à voiture en 2008. C'est-à-dire qu'il y a tout à faire. Voilà, c'est vraiment on va dire que c'est la course après l'or, quoi. Je veux dire, il y a tout à faire. Et là, on a des rentas à 10% facilement. L'année dernière, j'avais une proposition pour acheter un parking à bateau avec une renta de 17%. Donc, c'est un simple bout de terre où les gens pouvaient mettre leur bateau avec leur remorque, des gros bateaux hein, jusqu'à 8 mètres. Ils mettaient leur remorque, boum, et ils laissaient le bateau là. Et voilà, et en l'occurrence, il y avait 17% de rentabilité là-dessus. Donc, c'est assez intéressant. Et le truc, c'est que bah voilà, vous regardez ce qui se passe par rapport au bateau, au plaisancier. La plaisance, c'est très compliqué d'avoir une place de bateau dans un port. y a des endroits carrément comme l'île de Ré, si vous connaissez, je crois que c'est à Ars-en-Ré, Ars-en-Ré ou Saint-Martin-de-Ré, un des deux, je crois que c'est à Saint-Martin-de-Ré. Le port, il y a carrément des gens qui réservent une place pour leurs enfants parce que ça prend en moyenne 40 ans pour avoir une place dans le port. Donc, il faut faire la demande maintenant et dans 40 ans, alors vous aurez une place qui va se libérer et vous pourrez mettre votre bateau. Vous pourrez payer cher, tu auras le droit de payer cher pour mettre ton bateau. Parce que non seulement il faut attendre 40 ans, mais en plus c'est très cher quand tu auras le droit de mettre ton bateau. Donc les gens, si vous voulez, la plaisance ça se développe, mais ils n'ont pas la place pour mettre leur bateau. Ils voudraient bien, mais ils n'ont pas la place. Donc maintenant ce qui se développe, c'est voilà, donc, on sort les bateaux de l'eau et on les met à sec. C'est un parking à sec, un mouillage à sec où les gens mettent leur bateau sur la remorque. C'est beaucoup moins cher, il faut rentrer dans les terres bien sûr. Et l'avantage de ça, c'est qu'en plus le bateau, bah, il s'esquinte moins, il s'abîme moins parce qu'il n'est pas dans l'eau salée tout le temps. Non, il est au sec. Et donc du coup, bah, voilà, même pour faire l'anti-fouling, le carénage et tout, ils ont moins d'entretien. Donc quelque chose qui marche pas mal. Après, à voir où vous allez le faire, parce que par exemple, je crois qu'à Marseille et dans le sud, il y a une espèce de mafia un petit peu des parkings à bateaux comme ça, parking à sec. Donc attention à ne pas faire ça n'importe où pour pas vous prendre. Pour pas avoir des ennuis, mais voilà, ça se développe. Pareil pour les caravanes et les camping-cars, ce qu'on appelle le caravaning. Moi, j'ai fait beaucoup de camping quand j'étais petit avec mes parents, et mes parents ont toujours une caravane en Vendée. Ça fait longtemps qu'ils l'ont, et on a passé beaucoup de vacances dedans. Et ils la mettent chez un papy, un agriculteur en fait finalement, qui a un hangar, une grande grange. Et il a trop de place et ça lui sert à rien. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il range des caravanes et des camping-cars dedans, ce qu'on appelle l'hivernage. Et mes parents lui donnent un billet. Et c'est quand même un billet assez élevé, hein. Ça peut être dans les 200 euros, je pense, par an, pour pouvoir mettre la caravane là-dedans. Et le monsieur a une assurance et tout, tout à fait réglementaire, hein. Et donc, ça lui permet de rentabiliser comme ça son hangar et de prendre un bon billet parce qu'il a bien au moins 30 caravanes là-dedans. Donc, faites les maths, 30 caravanes fois 200. Euros maintenant, sachant que ça dépend de la taille de la caravane, le prix, et mes parents ont vraiment une toute petite caravane pliante et ils payent quand même 200 euros. Et le monsieur, voilà, il a plus de place dans sa grange, tout est réservé. Donc à la limite, il pourrait même construire une autre grange et développer ce truc-là davantage. Et j'ai aussi une amie, son papa, en Normandie, à Courseulles-sur-Mer. Pareil, donc lui, il a son bateau, c'est un petit 6 mètres avec une remorque. Et en fonction de la marée, donc il prend son bateau, il le met à l'eau. Et après, il le reprend hop, et il va le mettre comme ça en hivernage. Mais même quand il est là-bas pendant 2 mois, il prend son bateau la journée, boum, il s'en sert. Et le soir, il va le mettre chez un monsieur qui loue un espace dans son jardin où il peut mettre son bateau, tac, il le met. Et voilà, et il paye comme ça un loyer à l'année. Donc, si vous avez de la place chez vous, vous êtes proche de la mer ou autre, ou dans un coin type Vendée ou même sud de la France où voilà, où il y a beaucoup de caravanes, camping-cars, vous pouvez proposer un service d'hivernage. Ça, c'est encore un truc inconnu. Mais là-dedans, il y a des rentas à plus de 2 chiffres qui sont à se faire. C'est clair et net. Donc, grattez un petit peu là-dessus. Il y a moyen voilà, de trouver un peu des pépites là-dedans. En tout cas, pour commencer, voilà, il y a moyen de faire des bonnes choses. On va voir maintenant une autre tactique que j'adore. On peut gagner beaucoup d'argent où on a également des rentas à 2 chiffres tout de suite. Il n'y a pas dans ma temps. Il s'agit de la location saisonnière.